Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Cinémag. Aujourd'hui, un film britannique de Sally Potter qui s'appelle The Party et que nous avons vu pour vous à Cinécentre. Alors Christelle, The Party, un film intéressant ?
Oui, un film très intéressant, un film qui est assez court et assez incisif. Alors pour vous pitcher un petit peu l'histoire, une jeune femme interprétée par Christine Scott Thomas décide de réunir quelques amis pour fêter sa nomination à un poste ministériel. Et ce repas donc autour de sept convives qui aurait dû être une petite soirée sympathique entre amis, eh bien va prendre des tournures assez inattendues et va littéralement viré au jeu de massacre.
Oui, on comprend assez vite que ce repas n'aura jamais lieu et qu'on va s'en tenir en gros à l'apéritif et au règlement de compte.
Oui, alors le film a la spécificité, comme on l'a déjà un petit peu évoqué, d'être un huis clos. D'abord, toute l'action va se dérouler entre le salon et la cuisine, pour ainsi dire. Et toute l'action est finalement assez simple, puisqu'il va s'agir plutôt de régler ses comptes, de joutes verbales. Et tout ça va prendre une tournure très, très désarçonnante, pourrait-on dire.
Mais alors, est-ce que c'est plutôt, de ton point de vue, un film dramatique ou un film drôle ?
Oui, et c'est là aussi, à mon sens, le tour de force du film, c'est qu'effectivement, la situation de départ, finalement, enfin très vite, une situation dramatique s'installe. Et finalement, même si cette situation dramatique reste au cœur du film et va même s'empirer, si j'ose dire, il y a vraiment des moments de où on éclate de rire, des moments très drôles. Alors tout ça, évidemment, une ironie très noire, un humour très décalé, très grinçant, et beaucoup de cynisme, mais il me semble que c'est la force du film justement de mêler ce côté absolument terrible et dramatique à des moments qui sont franchement hilarants.
Alors, tout cela repose, tu l'as dit pour Christine Scott Thomas, mais sur une distribution extraordinaire avec des acteurs qui sont quand même plutôt étincelants.
Oui, alors c'est effectivement un casting absolument formidable. Alors évidemment, Christine Scott Thomas, qui est quand même assez familière du cinéma français, qui incarne une femme très, très digne et qui tout d'un coup va tomber dans les outrances les plus terribles. On retrouve Timothy Spall, qu'on a vu chez Mike Lee dans le rôle très beaucoup plus sobre de Turner, qu'il a une composition un peu hallucinée et là aussi souvent fort drôle malgré le drame qui couve. Encore une fois, dans le casting on peut aussi moi j'ai particulièrement apprécié la composition ultra réjouissante de Patricia Clarkston qu'on a vu chez Sean Penn, qu'on a vu chez Woody Allen notamment dans Whatever Works, où elle avait une composition assez proche d'ailleurs, je trouve,
et dans House of Cards aussi.
Voilà, elle a fait d'autres séries aussi comme Six Feet Under. Enfin voilà, c'est quand même une figure dont on retient, je pense, pas forcément le nom, mais dans les comédiennes américaines, mais qu'on identifie en tout cas et qu'on voit assez souvent au cinéma ou dans des séries. Et elle est absolument terrible dans ce film, la reine du cynisme, et son personnage a un côté vraiment vraiment redoutable.
Oui, et puis on pourrait dire un petit mot des hommes qui jouent dans ce film, puisqu'il y a quand même Bruno Ganz, l'acteur suisse qu'on a vu chez Wim Wenders, chez Werner Herzog, ou qui a même joué Hitler dans La Chute, et là qui est tout à fait à contre-emploi.
Alors là, oui, on oublie complètement, pour le coup, La Chute, là, il incarne une espèce de gourou qui est un coach de vie un peu soigneur et guérisseur et qui du coup est très 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 drôle aussi.
Et oui, et du coup le film se place dans la lignée d'un certain nombre de films de repas ou de films de soirée entre amis qui dégénèrent. On pense à un film d'Ursula Meyer qui s'appelle Tous à table, et puis pour les amoureux du cinéma danois, puisqu'on parlera beaucoup de Danemark cette année, on n'est pas si loin du Festen,
oui,
de Vinterberg.
Il y a un côté Festen, c'est vrai, ouais.
Et effectivement, donc le film est un film, je pense que nous sommes d'accord, assez jouissif.
Oui, c'est très jouissif.
Qui est une belle performance d'écriture et de mise en scène.
Oui, oui, encore une fois, parce que c'est un film très court finalement, et que tout ça se met en place assez rapidement et est assez tranchant. Donc c'est très efficace finalement.
Donc allez voir The Party de Sally Potter.
En deuxième partie d'émission, nous allons vous parler d'un film qui est proposé aussi à Cinécentre, un film d'Azanavicius qui s'appelle Le Redoutable.
Oui, donc le film est tiré d'un ouvrage d'Anne Wiamzenski, qui était l'épouse de Godard et qu'on retrouve dans ce biopic qui s'appelle Un an après.
Et oui, et Un an après est devenu Le Redoutable. Alors c'est une adaptation assez étonnante, puisqu'il s'agit de raconter à peu près une année, en gros, dans la vie de Jean-Luc Godard et de sa toute jeune épouse de l'époque. Et c'est une façon, et je pense que c'est surtout l'intérêt du film, de nous replonger dans l'ambiance des mois qui entourent mai 68, avec un moment un petit peu de doute pour le personnage qu'est Jean-Luc Godard, qui est un grand cinéaste, on le connaît en tant que fondateur ou cofondateur, pourrait-on dire, de la nouvelle vague française, ancien critique de cinéma, devenu cinéaste avec À bout de souffle, et puis qui a conquis un public de cinéphiles avec des films comme Le Mépris ou Pierrot le Fou, et qui se trouve à la fin des années 60 un petit peu dans un doute, puisqu'il est sur le point de presque renoncer au cinéma pour faire de la politique, ou d'essayer de trouver le moyen de faire un cinéma qui soit aussi un acte politique. Et c'est ce que raconte Michel Azanavicius.
Oui, d'ailleurs, il fait beaucoup de clins d'œil à la nouvelle vague dans son film au niveau de la forme. C'est peut-être là aussi l'originalité du film, puisqu'on y retrouve des regards caméra, un travail sur le son, mais également toutes les couleurs qu'on peut retrouver chez Godard, comme un hommage avec du bleu, du rouge, et également...
C'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu-blanc-rouge dans le film.
C'est vrai. Et il y a aussi des références directes au Mépris. On y voit les escaliers du Mépris. On y voit une séquence filmée du Mépris aussi lorsque Brigitte Bardot est nue sur le lit. Mais cette fois, ce n'est plus Brigitte Bardot, mais Stacy Martin.
Oui, Stacy Martin, en fait, c'est une jeune actrice qu'on a déjà vue dans un film que nos auditeurs n'ont peut-être pas vu, mais qui est Le Nymphomaniaque de Lars von Trier, qui avait été ses grands débuts au cinéma et dans le cinéma d'auteur. Là, c'est un rôle totalement différent.
Oui, et on peut parler aussi du coup de ce que tu disais tout à l'heure, Thierry, c'est-à-dire la radicalisation de Jean-Luc Godard dans ce film, qu'elle soit au niveau politique, mais aussi cinématographique, puisque on voit son engagement au niveau des étudiants et des émeutes de mai 68, mais également son changement au niveau cinématographique avec la création du groupe Ziga Vertov et également son isolement. Par rapport à d'autres réalisateurs, notamment ses amis, son ami Bernardo Bertolucci, etc.
Alors Godard, le moins qu'on puisse dire, c'est que contrairement peut-être à ce qui se passe dans le livre, où je trouve qu'il est relativement épargné, Godard devient quand même une sorte de pantin, un personnage comique.
Ici, on a un running gag assez frais, enfin qui revient bien sûr à chaque fois avec des lunettes cassées, etc. Donc il y a ce côté, mais qui donne au film peut-être une touche très fraîche aussi, un peu nouvelle vague, et qui donne du souffle, sans mauvais jeu de mots, à ce film, je trouve.
Alors, c'est un film que, personnellement, j'aurais tendance à trouver agréable, mais je trouve que ce qui fait sa qualité est aussi ce qui est un peu son défaut. Parce que le film est une comédie, c'est ce qu'a dit Azanavicius, mais finalement, moi, je me dis, mais pour qui ce film est-il fait ? À qui s'adresse-t-il ? Parce qu'en gros, soit on connaît Jean-Luc Godard, on connaît son œuvre, et on peut trouver assez légitimement que finalement c'est un petit peu facile d'en faire une sorte de guignol qui effectivement est une sorte de héros burlesque et un peu ridicule. Soit on ne connaît pas Jean-Luc Godard, et dans ce cas-là, je me demande vraiment quel peut être l'intérêt, puisque à part ces allusions que tu soulignes à juste titre, mais que seuls vraiment des cinéphiles peuvent relever, tout cela reste un petit peu sans objet.
On peut tout de même souligner la performance de Louis Garrel dans le rôle de Jean-Luc Godard.
Oui, tu as parfaitement raison. Qu'on aime ou pas le film, on est obligé de constater cette belle entreprise de transformisme de Louis Garrel qui se fait réellement une tête de Jean-Luc Godard, un accent de Jean-Luc Godard.
Et la participation de Jean-Pierre Mocky.
Et oui, Jean-Pierre Mocky que nous connaissons bien sur Dreux, qui joue un tout petit rôle de client d'un restaurant qui se fait agresser verbalement par Jean-Luc Godard. C'est une scène assez truculente. Un autre point important dans le film, c'est la musique. Et ce sont les choix qui ont été faits par Michel Hazanavicius qui sont une source de plaisir pour le spectateur. Par exemple, l'un des moments forts du film, c'est de nous faire entendre ceci.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains criaient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao.
Alors ça, c'était un extrait de Mao, Mao. C'est une chanson qui était en fait, qui faisait partie de la bande originale du film La Chinoise avec Anne Wiazemski en 1968 et qui est réutilisée à bon escient évidemment dans le film de Michel Hazanavicius. Il faut savoir que c'était enregistré par un certain Claude Chan qui avait suivi le réalisateur pendant 2 jours dans la rue pour lui proposer sa chanson, et Jean-Luc Godard avait accepté que le 45 tours figure dans le film. À l'époque, c'était tout de même assez étonnant de faire ce choix. Claude Chan était un chanteur très engagé politiquement. Il faut savoir que son 45 tours suivant, après donc Mao Mao, s'appelle Presse purée, presse pourrie. Tout ça pour nous plonger dans l'ambiance de 1968. L'autre bon moment musical, c'est une autre reprise, c'est celle d'Azzurro, qui est un grand classique de la chanson italienne et qui est interprétée par Adriano Celentano. C'est une chanson écrite par Paolo Conte et qui était sortie en single le 5 mai 1968. Donc c'est un des moments aussi forts du film que de nous replonger dans l'ambiance de cette fin des années 60 en utilisant cette chanson. Et bien c'est là-dessus qu'on se quitte avec le grand Adriano Celentano. À la semaine prochaine.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa.